Place Info.
Bonsoir, deux grands titres, un séminaire gouvernemental de rentrée avec un quart des Français qui jugent positif le bilan d'Emmanuel Macron selon notre sondage Kantar One Point pour France Info et Cédric Villani entré en campagne à Paris. On en parle avec nos informés, Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, canal 27, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Emmanuel Rivière, directeur général de la division publique de Kantar, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne Paris 1. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Est-ce le premier jour de l'acte 2 du quinquennat? Édouard Philippe a donné cette conférence de presse à la faveur d'un séminaire gouvernemental de rentrée, discours de la méthode du Premier ministre.
Nous avons pris la décision de lancer des consultations citoyennes dans une logique qui est assez proche de celle qui a prévalu au moment du grand débat. Nous voulons favoriser les échanges directs avec les Français. Mais parallèlement à ça, parce que le sujet des retraites est évidemment très compliqué, parce qu'il représente des intérêts multiples, nous voulons aussi placer au cœur de la consultation les partenaires sociaux. Dans le courant de la semaine prochaine, j'indiquerai au nom du gouvernement les choix que nous retiendrons sur justement la méthode et le calendrier de la réforme.
Vous l'avez compris, ces retraites sont au cœur des préoccupations de cette rentrée. Audrey Goutard, vous diriez affichage, ce séminaire, pourquoi au juste ?
Alors c'est un séminaire qui a lieu tous les trimestres, hein, donc oui. Ça n'est pas nouveau, mais néanmoins on sent bien un ton très particulier, c'est celui de 1, on est au plus près des gens, 2, on essaye de vérifier si notre politique fonctionne auprès du citoyen, vous avez entendu, le mot citoyen revient, et puis enfin, effectivement, le sujet le plus sensible pour les Français aujourd'hui, ce sont les retraites.
Oui. Mais vous sentez qu'il y a un souffle nouveau, Stéphane Vernet, il y a du neuf ou... C'est un peu une fable qu'on essaie de vendre à la rentrée, là.
Non, alors toute la difficulté pour La République En Marche aujourd'hui et la majorité présidentielle, c'est d'incarner le changement. C'est-à-dire que l'acte 2 dans les têtes au sein de la majorité...
Agaçant ces expressions, hein, acte 2...
Oui, ça s'est joué à l'issue de la crise des Gilets jaunes, du grand débat national, ça s'est fait avec les discours de politique générale au mois de juin. Vous avez les parlementaires, La République En Marche, les ministres, ils sont prêts... pour le changement. Le problème du changement, c'est, il est dans la question que vous avez posée, Jean-François, c'est est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Et la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de changer, mais la grosse difficulté qui va être la leur, c'est de l'incarner, c'est-à-dire de faire en sorte que les Français y croient. Et pour que les Français y croient, il faut qu'il y ait du concret dans notre quotidien, des mesures phares. Et ça, eh ben, c'est tout l'enjeu de cette rentrée. Je pense qu'ils le savent. C'est ce qui est en train de se discuter. Il faut qu'ils trouvent des clés. Et ça fera écho à ce qu'on va discuter dans la deuxième partie
de l'émission. Oui, avec Emmanuel Rivière.
Sur ce sondage. Est-ce que les Français y croient ou pas? Et comment on fait pour aller au-delà du simple affichage?
Roselyne Fèvre, on a entendu le Premier ministre à l'instant. Dans ses annonces, il dit que la méthode, le calendrier concernant la réforme des retraites seront révélés la semaine prochaine. Pourquoi cette espèce de, on va dire, j'aime pas ce mot de teasing, c'est un anglicisme. Pourquoi attendre? Pourquoi ce suspense?
Mais parce que on va faire la concertation de la concertation. On va faire une concertation pour dire qu'on va négocier sur la méthode, négocier sur le calendrier. Et les mots qu'on nous a assénés aujourd'hui, c'est humilité, c'est proximité, c'est concertation. Donc il y a il y a pas un changement de cap, ça on le sait, mais il y a un changement de méthode de la gouvernance. Et c'est plus Jupiter qui marche sous la foudre, c'est Soupline, c'est on a l'impression qu'Emmanuel Macron a avalé un baril d'adoucissant.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'il est, c'est l'homme, on va dire le moins arrogant désormais, celui qui veut discuter, celui qui a décidé que les syndicats n'étaient plus des ralentisseurs, mais qu'au contraire ils étaient des personnes importantes, idoines pour faire les réformes qu'il veut. Oui, il se rabiboche avec la CFDT. Et puis on voit bien aussi dès qu'il y a à chaque catégorie qui bouge, il y a une attention immédiate. Les hôpitaux, les agriculteurs,
on essaie de déminer à chaque fois.
Donc là, il y a un véritable affection.
Emmanuel Rivière, pour compléter ce que dit, poursuivre ce que dit Roselyne Fèvre, donc le sondage, l'enquête Kantar One Point pour France Info, la principale indication, on l'a dit depuis ce matin, 25% des Français Français jugent au fond le bilan plutôt positif. Est-ce que c'est le quart à moitié plein ou les trois quarts à moitié vide?
Là où on peut voir un verre qui se remplit un peu, c'est que ça va mieux que l'an dernier.
Un
petit peu mieux. On est passé de 19 à 25. Il y a 10 points de moins de gens qui jugent ce bilan négatif.
Avec une crise majeure au milieu quand même. Hein.
Avec une crise majeure au milieu. Et c'est d'ailleurs la crise majeure qui explique le contraste qu'on vient de commenter. Enfin, il faut se rappeler, il y a un an, un peu moins d'un an, au moment du début du mouvement des Gilets jaunes, ce qui se disait dans les milieux gouvernementaux. Faut pas qu'on varie, faut qu'on suive notre ligne. Sinon, on est mort. Si on a le sentiment de reculer, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une rhétorique totalement différente. Là où le verre est quand même reste aux trois quarts vide, c'est que les Français ne sentent pas du tout ça. Cet acte 2 que dans l'extrait qu'on a commenté d'Édouard Philippe est en permanence illustré sur la méthode, l'écoute, eh bien on a aujourd'hui que 26% des Français, que 30% pardon des Français qui considèrent
qu'il faut du concret tout de suite là.
On fait des efforts pour les écouter. Oui, oui. Et ça c'est une vraie difficulté. C'est de donner le sentiment que les choses ont vraiment changé, alors que cette séquence a été fascinante et a beaucoup secoué le gouvernement qui a vraiment compris qu'il ne pouvait plus procéder de la même manière. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'il l'a compris.
Vous rappelez le slogan, hein, le changement c'est maintenant. Allez, Stéphane Vernet, pour rebondir sur votre propos tout à l'heure, s'il n'y a pas de nouveautés, de résultats immédiats, ça peut peser lourd dans l'opinion.
Oui, ça peut être très compliqué, mais moi je rejoins complètement Emmanuel.
Parce qu'on n'arrive pas à estimer le délai là, en fait.
Ben alors, il y a aussi l'idée que finalement, en fait, dans cette première parce qu'ils sont au milieu du guet, on est à la moitié du quinquennat en réalité. Et donc il y avait l'idée aussi que ils avaient été élus pour transformer le pays, qu'il fallait aller vite, en profondeur, etc. Et ils estiment eux qu'ils ont plutôt été bons et au rendez-vous sur cette première partie du quinquennat. Ce qui est aussi en train de changer, c'est le discours qui consiste à dire maintenant on va s'attaquer à des sujets tout aussi lourds qui concernent la transformation du pays, mais on prendra plus de temps et on prendra le temps de l'écoute et de la concertation. Ce qui se passe avec Jean-Paul Delevoye est l'illustration parfaite de ça, c'est-à-dire que dans la première partie du quinquennat, il lui aurait dit bah, fais un rapport, on consulte, tu nous dis ce qu'il faut faire, hop, ils le mettent dans un tiroir et puis ils avancent. Et là, il le nomme au commissaire avec la volonté de repartir dans une consultation, de reprendre du temps et d'aller beaucoup plus loin, mais en prenant un temps beaucoup plus long.
Plus long. Allez, on va prendre le temps, nous, également, de poursuivre le sondage, l'analyse du sondage. On va parler de Jean-Paul Delevoye dans un instant. Vous faites bien de le signaler, Stéphane Vernet. Tout de suite, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
La République En Marche dit regretter ce soir la décision de Cédric Villani. Le député et mathématicien annonce sa candidature à la mairie de Paris. Il dit vouloir devenir le premier maire écologiste de la capitale pour une ville plus douce. Une candidature dissidente donc face à Benjamin Griveaux, désigné candidat au début de l'été par le parti présidentiel. Pour autant, Cédric Villani ne sera pas exclu de la formation politique. L'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso ne sera plus menée à Nantes, mais à Rennes. La procédure ouverte pour homicide involontaire est dépaysée aujourd'hui sur décision de la Cour de cassation. Cela s'impose pour des impératifs de sérénité et d'impartialité, expliquent les magistrats. Steve est mort lors de la fête de la musique en juin dernier après une opération de police sur les bords de la Loire. Il est tombé dans le fleuve alors qu'il ne savait pas nager. La cavale de ce baron de la drogue italien aura fini à Arzon dans le Morbihan. Mario Micelli, trafiquant de 62 ans, vient d'être arrêté en Bretagne. Il ne s'y cachait pas vraiment, il avait ouvert une entreprise de nettoyage. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international après une condamnation au début de l'année à Milan pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds. C'est une amende inédite pour Google. Le géant du web doit verser 170 millions d'euros à la justice américaine pour avoir collecté les données personnelles de plusieurs enfants. Google est aussi accusé d'avoir exposé ses mineurs à des vidéos inappropriées sur sa plateforme YouTube. Et puis à l'US Open de tennis, Gaël Monfils va bientôt entrer sur le court pour son match contre l'espoir italien Matteo Berrettini. Les deux joueurs s'affrontent pour une place en demi-finale.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jean-Paul Delevoye, on en parle, il fait son entrée au gouvernement, du coup il est à la lumière, le haut commissaire, ce n'est pas un ministre, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'en ont dit ce matin? Écoutez, tiens, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, c'était sur France Info, et Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis sur France Inter.
Nous en parlons depuis longtemps, Jean-Paul Delevoye et moi, ça fait longtemps que nous discutons de son entrée à mes côtés au gouvernement pour porter cette réforme. Pourquoi ? J'ai souhaité d'abord qu'il soit tranquille pendant 2 ans, et je crois que c'était bien qu'il fasse ce travail quelque part un peu dans l'ombre pour ne pas être exposé en permanence comme un membre du gouvernement, comme un ministre. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un...
Maintenant, il est au front.
Maintenant, il est au front.
Pour faire le sale boulot, sans doute, c'est celui qui le mène depuis longtemps. Pardon de cette expression un peu dure, mais c'est un recul social dont on nous parle. Ce dont il s'agit, quel que soit après qu'on parle de l'âge pivot, que ce soit le nombre d'années de cotisation... Ce que veut faire ce gouvernement, c'est amener à ce que les gens doivent soit travailler plus longtemps, plus vieux, soit n'ayant pas le nombre d'années pour pouvoir avoir une retraite complète. C'est le développement d'un business, des assurances privées, qui va venir compléter votre retraite qui est insuffisante.
Intéressant ce qui a été dit à l'instant, on va le commenter, mais tout d'abord Emmanuel Rivière, le sondage, les retraites, hostilité quand même hein.
Hostilité, d'ailleurs, c'est parmi les réformes annoncées, celle qui suscite le plus d'hostilité. 30% de soutien, 48% d'opposition. Vous pourriez me dire les uns les autres, d'ailleurs, qu'est-ce que vous posez une question de sondage sur une réforme qui n'est pas encore connue? On a laissé aux gens la possibilité de dire, je connais pas assez la réforme pour juger. Ben, malgré ça, il y en a beaucoup, 48%, qui disent, je suis contre. Parce que là, il y a une méfiance. Les gens ont intégré que réforme des retraites voulait dire probablement moins de retraites. En plus, il s'est passé quelque chose de très significatif cette année, c'est que pour la première fois peut-être aussi, les retraités se sont sentis atteints par la hausse de la CSG. On est revenu dessus depuis, mais c'était un peu la première fois qu'il y avait quelque chose qui était perçu comme une atteinte directe au pouvoir d'achat des retraités. Quand on est retraité, c'est un peu angoissant de perdre du pouvoir d'achat, parce qu'on ne sait pas très bien comment on pourrait se refaire.
Ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Audrey Goutard, sale boulot, comme l'a dit Alexis Corbière.
Oui, parce que de toute façon, les Français ne peuvent pas être satisfaits d'une réforme des retraites. Les retraites à la française, c'était un particularisme, cette espèce de sentiment jusqu'à ces dernières années, qu'effectivement, en France, on était plus protégés que dans d'autres pays, et dans la majorité même des pays européens. Aujourd'hui, les Français comprennent bien que de toute façon, une réforme, ça n'ira pas dans le sens d'un confort plus grand. Et on voit bien aussi, psychologiquement, à partir du moment où on touche aux retraites des plus modestes, tout à coup, ça crée un sentiment psychologique que de toute façon, tout ce qui touchera la retraite dorénavant sera un danger pour les futurs retraités.
Stéphane Vernet, vous avez la sensation que des choses vont évoluer dans ce débat, que des lignes vont bouger. On a l'impression que c'est déjà un petit peu écrit à l'avance. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a les propositions du rapport de Levoy, mais en fait, il y a une vraie volonté d'ouvrir une nouvelle phase de concertation qui sera longue et qui peut remettre en cause toutes sortes de propositions mises sur la table. En réalité, cette réforme, elle n'est pas écrite. Elle reste à écrire, elle reste à fabriquer.
18 mois de discussion déjà.
Mais oui, mais c'est aussi ça qui change. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la première partie du quinquennat, le réflexe aurait été
ils seront tous à la retraite de quand il y aura une loi finalement.
Après, je pense que c'est un sujet qui est épineux, parce que même si on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau, effectivement, ce que montre le sondage et ce qu'on sait des Français, ce que vous venez très bien de dire, c'est que il y a une défiance sur ce sujet, et on l'a vu par le passé, qu'elles peuvent être détonnantes par rapport au pouvoir. Donc ils marchent sur des œufs et ils ont intérêt à prendre le temps et à prendre plus que le temps pour arriver à quelque chose qui soit un bon compromis. Et c'est casse-gueule.
Ils marchent sur des œufs. Roselyne Fèvre, la ministre disait à l'instant, hein, elle était sur France Info ce matin, Agnès Buzyn, elle voulait le laisser tranquille, comme si un retour à la lumière, c'était une sorte de prise de risque.
Oui, alors c'est lui qui va surtout un peu lui dégager parce que un peu de terrain, parce que les retraites, c'est vrai qu'il l'a porté, donc il a porté ce rapport, donc on est dans une logique. Et puis ça va le soulager parce qu'elle a la crise des urgences sur le dos. Non, cette réforme, je voudrais revenir sur cette réforme qui est en fait un peu à fragmentation, hein, une bombe à fragmentation, parce qu'elle va toucher donc certaines professions vont perdre, on le sait, les professeurs, les fonctionnaires, les régimes spéciaux, les femmes qui ont eu des carrières hachées, donc ça va être compliqué. Et ce qu'on dit pas assez souvent, c'est que cette réforme, c'est donc un régime à points, et c'est lié au PIB, au produit intérieur brut. C'est-à-dire que s'il y a une forte récession, un jour, eh bien, les retraites baisseront. Et ça, on ne le dit pas.
Et cette négociation reprend évidemment demain. Elle recommence littéralement. Sur le sondage Emmanuel Rivière, le sondage que vous nous proposez ce soir, il y a d'autres enseignements assez étonnants. La politique du gouvernement penche à droite aux yeux des Français. Ça y est, c'est un gouvernement de droite.
Alors ça, c'est pas nouveau pour le coup, c'est déjà le cas l'an dernier.
Mais on dirait que c'est inscrit dans le marbre désormais, ouais, du quinquennat.
C'est inscrit dans le marbre. Ça s'est un peu amélioré chez les sympathisants et les électeurs, notamment du premier tour d'Emmanuel Macron. Mais pour les électeurs de gauche, en revanche, c'est une chose acquise pour eux très majoritairement. Ce gouvernement fait une politique de droite. Et d'ailleurs, ce sera une des clés, je pense, qui joueront pour le scrutin de 2022. Il y a un espace politique assez important à gauche qui s'ouvre. Il n'y a personne pour l'occuper pour l'instant. On verra si la nature ayant horreur du vide, quelqu'un émerge. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que le gouvernement a quand même construit tout son équilibre politique, on parlera tout à l'heure peut-être des municipales, bien dans sûr. Justement cette équidistance entre la gauche et la droite. Et ce qui semble de plus en plus difficile à tenir. Et après 12 mois qui ont été marqués par cet événement, ça n'a qu'assez peu bougé, sauf encore une fois chez les électeurs du premier tour d'Emmanuel Macron.
Je voudrais rajouter qu'il n'y a plus besoin vraiment en réalité aujourd'hui pour Emmanuel Macron de faire une politique de droite, puisqu'il n'y a aucun danger qui vient de la droite. En revanche, c'est vrai qu'il peut se lâcher sur une politique plus à gauche, on va dire peut-être une inflexion sociale, et c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'à droite, ça y est, c'est conquis. Alors, il faut voir, et j'ai vu dans votre sondage, qu'il garde ses acquis de l'électorat à la fois son socle électoral et à la fois la droite. Donc il peut un peu lâcher sur la droite pour faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire dans un premier temps je libère et dans un deuxième temps je protège, et je pense qu'il est dans la phase de protection et on va voir jusqu'où il va aller. Et toute la question est-ce que l'audace du début, c'est-à-dire quand il fonçait comme un TGV, maintenant on a l'impression qu'il va faire ses réformes comme un TER où il va s'arrêter à toutes les gares. Oui. J'ai rien contre les TER, j'en ai pris un il y a quelques jours, mais c'est vrai que ça s'arrête toutes les heures, c'est un peu pénible.
Stéphane Vernet, vous qui êtes de Ouest-France, l'allégorie du TER, ça vous convient?
Oui, ça parle.
Oui, mais ça correspond un peu à ce qui est évoqué au début de l'émission.
Oui, mais c'est ce que je disais. Je pense que là, il y a aussi une rupture, il y a un changement de méthode qu'ils ont besoin d'incarner, et ça, pour l'instant, ils n'ont pas encore les clés. Il faut qu'ils trouvent le moyen de faire en sorte que les Français croient qu'ils ont changé, ce que disait Emmanuel très bien tout à l'heure. Mais il y a aussi la volonté dans ce changement de méthode d'une rupture dans la dynamique et dans la gestion du temps. Je pense que les choses iront beaucoup moins vite qu'au tout début du quinquennat. Et ça, c'est aussi une différence.
Parce que les réformes se font toujours.
Oui. Alors, séminaire, rentrée, acte 2. On va poursuivre sur l'enquête publique de Kantar que vous nous livrez ce soir, Emmanuel Rivière, avec One Point pour France Info. Tout d'abord, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
L'hôpital de la Conception à Marseille affirme avoir mené plusieurs fouilles, avoir prévenu les pompiers, le SAMU, visionné les images de vidéosurveillance. Pour autant, ces personnels auront été incapables de retrouver vivant un patient qui a échappé à leur vigilance, un homme de 73 ans atteint d'un cancer et d'Alzheimer. Son corps vient d'être découvert dans une aile désaffectée de l'hôpital 15 jours après sa disparition. La justice ordonne l'expulsion d'un millier de migrants, surtout des Irakiens, qui vivent dans et autour d'un gymnase à Grande-Synthe, dans le Nord. Décision du tribunal administratif de Lille à la demande de la mairie. Elle est motivée par des problèmes de salubrité et de sécurité, d'après le juge, des bagarres récurrentes et la présence de passeurs sur le campement. C'est une nouvelle soirée sous tension à Londres. Les députés britanniques viennent d'adopter en première lecture un texte pour contraindre Boris Johnson à reporter le Brexit. Le Premier ministre, qui a déjà subi un revers net hier, veut sortir de l'Union européenne quoi qu'il advienne le 31 octobre, mais il pourrait donc en être empêché. Plus tard ce soir, les parlementaires voteront sur la motion qu'il a déposée hier. Elle vise à organiser de nouvelles élections législatives à la mi-octobre. Peut-être leur a-t-il donné quelques conseils pour courir plus vite. La légende du sprint américain Carl Lewis est venu rencontrer les joueurs de l'équipe de France de football aujourd'hui à Clairefontaine. Ils y préparent leurs deux prochains matchs de qualification à l'Euro 2020. Ce sera samedi et mardi prochain contre l'Albanie puis contre Andorre.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Voilà, cela va intéresser notamment vous, hein, Emmanuel Rivière, avec notre enquête, notre sondage en ce qui concerne les fonctionnaires. Rentrée du gouvernement, annonce choc, c'était hier soir, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, les deux ministres qui nous ont annoncé les 5 800 suppressions de postes à Bercy d'ici à 2022, qui viennent s'ajouter aux 4 300, il faut être précis, déjà supprimés. Ce qu'en dit Anne Guyot-Welk, secrétaire nationale de Solidar Finances Publiques.
Un démantèlement affichée, volontaire de ce gouvernement, de mettre fin à la fonction publique telle qu'on la connaissait jusqu'à présent. Le mouvement des Gilets jaunes a fait apparaître que les citoyens avaient besoin d'un service public de proximité. Ce service public, il est low cost aujourd'hui.
Voilà, les suppressions de fonctionnaires. On avait dit, c'était une promesse électorale du président Emmanuel Macron, un petit peu anxiogène quand même, 120 000 suppressions, 70 000 dans la territoriale, 50 000 fonctions publiques d'État, nous n'y sommes pas. Et le sondage, aidez-moi, Emmanuel Rivière dit qu'au fond, les électeurs trouvent que le compte y est en termes de promesses.
Oui, oui, enfin, les électeurs d'Emmanuel Macron pensent que le compte y est en termes de promesses. Après, franchement, c'était pas... probablement pas cette promesse-là qui mettait en tête. Les Français sont très divisés sur la question de la diminution du nombre de fonctionnaires. Quasiment moitié-moitié.
Les
moitié.
Électeurs d'En Marche.
Les électeurs d'En Marche, ils sont favorables, en revanche. Diminuer le nombre de fonctionnaires, ça veut à peu près rien dire. Déjà, quand on commence à préciser fonctionnaires d'État ou fonctionnaires territoriaux, vous avez dans un cas une majorité, ah oui, mais pas massive, un peu plus de 50%. Quand on s'attaque à la fonction publique territoriale, on est moins convaincu qu'il faille les diminuer. Alors, c'est vrai que quand on parle des fonctionnaires des impôts, là, on joue sur du velours. Effectivement, c'est la catégorie dans laquelle, c'est le service public dans laquelle le plus grand nombre de Français, ce que dit l'Institut Paul de Louvrier, considère qu'on peut faire des économies. Ce qui est évidemment pas ce que pensent les syndicats des fonctionnaires de Bercy. C'est en fait une des vraies tensions françaises. Théoriquement, les Français pensent qu'on peut diminuer le nombre de fonctionnaires. Après, les vrais gros effectifs de fonctionnaires, c'est quand même dans la police, dans l'éducation nationale, dans les justices. Et sur tous ces domaines, les Français disent non, là, on peut pas toucher.
Oui, ce qui est très audible.
Oui, les Français finalement ont du bon sens. Ils veulent une ventilation des fonctionnaires là où on en a besoin. On parle de Bercy. Oui, c'est vrai que c'est assez populaire de cracher sur les fonctionnaires de Bercy. Mais en même temps, si on veut avoir une sécurité alimentaire assurée, si on veut avoir un combat contre la fraude fiscale, etc., c'est aussi des fonctionnaires de Bercy qui s'en chargent. Et là, ils sont en nombre très faible. Donc les Français, eux, veulent des services avec des fonctionnaires vertueux, et en même temps, effectivement, ils disent qu'il y en a trop. Alors, c'est peut-être exact, mais c'est compliqué de trouver ce bon équilibre, et c'est tout l'enjeu du gouvernement aujourd'hui.
Alors, Stéphane Vernet, par delà le débat autour de la fonction publique, peut-être faut-il s'en réjouir, il n'y aura pas autant de suppressions de postes. Il y a aussi, finalement, ces taxes foncières qui explosent aujourd'hui. Il y a également, finalement, les dettes, le déficit qui court. On a la sensation, puisqu'on parlait de séminaires de rentrée, d'actes 2, de dialogue avec les Français, que quelque part la politique générale, les politiques publiques sont assez, on va dire, dans la lignée de ce que nous avons toujours connu.
Mais là, énorme, Yannick, ça fait partie des choses qui seront cruciales dans cette rentrée, notamment pour les parlementaires et le gouvernement, c'est que vous avez le projet de loi de finances. Il va falloir parler des sous, c'est-à-dire comment
le est-ce vrai grand débat qui arrive.
Hein. Ben oui. Oui, comment est-ce qu'on finance l'action publique? Et vous avez sur le par rapport aux taxes foncières et par rapport aux impôts en général, ça fait partie des choses qu'a évoqué en une phrase Édouard Philippe au moment du débrief du séminaire de rentrée cet après-midi, en disant qu'il fallait trouver un juste équilibre entre la poursuite de l'assainissement des finances publiques, la conjoncture économique et la baisse des impôts. Elle est là la l'équation quasi impossible à résoudre. C'est une gymnastique infernale tous les ans, et ce sont des éléments qui varient tous les ans. Et en fait, la conjoncture économique, elle est pas formidable en ce moment. Les impôts ont beaucoup baissé, et derrière, il y a aussi des choses à financer. Il va bien falloir trouver de l'argent. Quand vous en enlevez à un endroit, faut en trouver à un autre.
Mais là, ça concerne 30 000 propriétaires, je crois. 130 000, c'est pas grand chose, et c'est une façon. C'est les élus qui se rattrapent en quelque sorte de la suppression de la taxe d'habitation.
Oui, mais il y a quand même un problème, c'est que la taxe d'habitation, il devait y avoir des simulations promises par le gouvernement aux collectivités locales en disant voilà comment on la compensera. Ouais. Elles devaient être livrées en juillet, ces simulations. Elles n'ont pas été délivrées par Bercy. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas, les collectivités ne savent toujours pas comment la suppression de la taxe d'habitation sera compensée pour elles. Et ça, c'est un vrai problème pour équilibrer leur budget. Et il y a aussi une menace pour un certain nombre de collectivités territoriales, notamment les départements, de pas pouvoir boucler leur futur budget.
Oui, mais c'est ça le problème. C'est le problème des collectivités. Oui. C'est je veux de l'argent, donc je taxe. C'est tellement français. Donc et à la fois, les Français veulent plus de services, plus d'État et moins d'impôts. Donc, c'est quand même une quadrature du cercle assez impossible.
D'un mot, pour boucler cette première demi-heure, Emmanuel Rivière, avec notre enquête, vous diriez, au fond, c'est plutôt rassurant pour ce gouvernement ou pas ?
Nous avons très peu de temps, là, avant la pause.
Si vous considérez que la préoccupation du pouvoir d'achat, qui est toujours très forte, s'est ajoutée une préoccupation montante sur l'écologie, sur laquelle le gouvernement n'est pas jugé très crédible, et que par ailleurs, ces électeurs de droite, dont Roselyne Febvre disait très justement qu'ils sont un acquis pour l'instant de la majorité, eux, ils sont très sensibles à la question des taxes, des déficits, il y a quand même une conjonction à tenir, là, qui n'est pas simple.
Allez, on en parle dans la deuxième demi-heure, parce que l'environnement, puisque nous allons revenir sur Paris et la candidature ce soir de Cédric Villani. On marque une pause, la météo, le rappel des infos et le retour des informés de France Info.
Je reviens pas que tu sois à la fois vice-champion du monde de bridge et supporter de Paris. Où tu me prends à contre-pied ?
Le bridge est un sport, le sport de l'esprit.
Ouais, c'est plutôt réservé à une élite, non ?
T'es en jeu sur ce coup-là. Viens dans mon club, tu seras étonné des gens différents que tu vas rencontrer. Le bridge aussi est magique.
Thomas Bessis, 34 ans, est vice-champion du monde de bridge. Et il a raison, le bridge, c'est pour tout le monde. Découvrez la FFB Bridge Box, un coffret d'initiation pour jouer tout de suite, des cours, la licence offerte et plus encore. Plus d'infos sur ffbridge.fr. Le bridge, sport de l'esprit, esprit ouvert.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Allez, la météo, les prévisions de Sébastien Léas de Météo France.
Nouvelle journée sous le soleil pour toute la moitié sud, le centre-val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Quelques petites averses pourront tout de même se développer sur le Mercantour et les hauteurs de la Corse du Sud demain après-midi, mais seront faibles et localisées. Le quart nord-ouest sera en revanche concerné par le passage d'une perturbation. La matinée sera très nuageuse et humide entre la Bretagne et le Pas-de-Calais en passant par la Normandie. Au fil des heures, cette perturbation va s'enfoncer sur l'Hexagone pour gagner jusqu'au nord, à l'Aisne, à l'Île-de-France et au Pays de la Loire demain après-midi. Généralement faible et intermittente, les pluies seront plus continues au nord de la Seine. Demain après-midi, le ciel de la Bretagne, de la Basse-Normandie et des côtes de la Manche va nettement s'éclaircir et le soleil sera de retour. Demain après-midi, il fera 19 degrés à Saint-Brieuc et Abbeville, 20 degrés pour Lille et pour Caen, 24 degrés à Paris, 26 degrés à Cognac et Besançon et 27 degrés à Strasbourg, alors que le mercure grimpera jusqu'à 29 degrés à Grenoble, Toulouse et Bastia, 31 degrés à Marseille et 33 degrés à Nîmes.
Tout juste 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Il représente le troisième CHU de France, les hôpitaux publics de Marseille, mis en cause ce soir après la mort d'un patient à l'hôpital de la Conception. Un homme de 73 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer, dont le corps vient d'être retrouvé deux semaines après son arrivée dans cet hôpital. Marie-Christine Loriol.
Jean Ligonnet était entré à l'hôpital de la Conception le 19 août dernier en fin de matinée pour une séance de chimiothérapie. Trois heures plus tard, l'homme âgé de 72 ans était introuvable. Une disparition d'autant plus inquiétante que ce patient était atteint d'un Alzheimer sévère. Selon son fils, il avait un âge mental de 2-3 ans. Aussitôt, la direction de l'hôpital entreprenait de fouiller l'ensemble de l'établissement ainsi que les extérieurs. Un dispositif important et répétitif a expliqué la directrice de la Conception, visionnaire. Visionnage de vidéosurveillance, affichage de photos, pompiers et SAMU social étaient également alertés. C'est seulement hier que le corps sans vie de Jean Ligonnet a été retrouvé dans une unité désaffectée. Le service avait pourtant été visité plusieurs fois, précise encore la direction qui indique qu'une autopsie sera pratiquée pour connaître les causes exactes du décès. De son côté, Jean Hospice, le fils de la victime, se dit dégoûté selon ses propres termes. On vient à l'hôpital pour se faire soigner, pas pour mourir. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Info.
Un vaste plan de modernisation des hôpitaux publics de Marseille avait été lancé l'an dernier, mais les syndicats, en particulier Force Ouvrière, affirmaient ces derniers mois que la direction ne leur donnait pas les moyens humains de faire tourner les services. Fin de citation. Le risque d'incendie préoccupant dans la Drôme et en Ardèche. Le plan alerte a été déclenché par les préfectures des deux départements en raison de la sécheresse et du vent fort attendu demain. 67 communes sont concernées. Ce plan suppose la présence des pompiers sur le terrain dès le lever du jour. Ce soir, un peu plus au sud, dans le département de l'Aude, 300 hectares de végétation ont brûlé dans le secteur de Carcassonne. La politique, les cadres de La République En Marche lui avaient préféré Benjamin Griveaux. Qu'importe, Cédric Villani se lance seul dans la bataille des municipales à Paris. L'annonce ce soir depuis une brasserie du 14e arrondissement. Enfin seul, pas tout à fait, car le mathématicien et député de l'Essonne était entouré de nombreux soutiens ce soir devant les caméras de télévision qu'il avait conviées. Et en bon spécialiste de l'analyse mathématique, il a sans doute évalué les probabilités de victoire. En tout cas, voilà une candidature dissidente qui met le parti présidentiel en difficulté à Paris. La République En Marche qui dit regretter cette candidature. À Londres, les députés votent et revotent ce soir, tout d'abord pour contraindre Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, c'est le Premier ministre lui-même qui soumettra une motion pour court-circuiter en quelque sorte les députés en demandant des élections anticipées. Un mot de sport avec le champion de ski Marcel Hirscher qui prend sa retraite. L'Autrichien qui a tout gagné ou presque, un 20 globes de cristal notamment. À 30 ans, il annonce ce soir la fin de sa carrière sportive. Et puis le tennis, Gaël Monfils joue dans quelques instants. 20h33, les informés, Jean-François Killy.
France Info, les informés. Jean-François Killy.
Avec Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'excellente Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, Canal 27. Avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Et Emmanuel Rivière, directeur général de la division publique de Kantar, enseignant à Sciences Po et à la Sorbonne. Paris 1. Cédric Villani est donc entré en campagne à Paris, il est 19h, entouré de ses troupes. Nous sommes dans une brasserie de la rue de la Gaîté, c'est dans le 14e arrondissement de Paris. Les mots du candidat.
C'est ensemble que nous allons mettre Paris en mouvement pour en faire la métropole internationale de référence du 21e siècle. Pour en faire la capitale d'un nouveau mode de développement écologique. Qui place l'humain et la nature au cœur des enjeux économiques, sociaux, numériques et démocratiques. C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Voilà donc la déclaration, les mots, un extrait du discours de Cédric Villani. Bonsoir à vous, Simon Le Baron.
Bonsoir Jean-François.
Alors, je rappelle, vous êtes journaliste au service politique de France Info. Vous y étiez, Simon. Quelques mots d'abord sur allez, le climat, l'ambiance, le style.
Le style, un café rouge, une brasserie typique de ce 14e arrondissement de Paris, rue de la Gaîté, dans cet arrondissement, le 14e, où Cédric Villani, il l'a rappelé dans son discours, est arrivé à l'âge de 17 ans quand il a passé son bac à Toulon et qu'il est monté à la capitale pour poursuivre ses études.
Oui, pour dire je suis parisien.
Voilà, exactement, c'est pour jouer la fibre parisien, comme beaucoup de parisiens, comme la plupart des parisiens. Je ne viens pas de Paris, mais j'ai adopté cette ville et cette ville m'a adopté, voilà. Pour le côté sentimental, l'ambiance était aussi une cohue assez indescriptible à l'intérieur de ce bar qui n'était pas si grand finalement. Il y avait énormément de journalistes et quelques soutiens aussi, peut-être quelques
plus de journalistes que de soutiens, vous nous dites.
Oui, ça c'est sûr, plus de micros et de caméras que de soutiens, mais il n'y avait pas beaucoup de place, il faut bien le dire. Pour le reste, le contenu du discours et pourquoi Cédric Villani a décidé de se lancer dans cette bataille de la capitale face à Benjamin Griveaux qui a été désigné officiellement par le mouvement présidentiel, eh bien, il a mis en avant sa liberté, son indépendance. Je ne suis pas un homme d'appareil. Et puis, il a rappelé aussi le député de l'Essonne qui n'avait pas accepté le processus de désignation du candidat En Marche. Vous savez, cette commission nationale d'investiture le 10 juillet, processus inadapté, processus qu'il avait qualifié auparavant de vicié, Cédric Villani.
Encore un mot là-dessus, Simon Le Baron. Le nom de Benjamin Griveaux était revenu sur toutes les lèvres. Il n'en parle pas?
Pas Cédric Villani lui-même, aucune allusion à son adversaire et au candidat officiel de La République En Marche, au-delà de cette petite phrase que je viens de vous citer, ce processus inadapté. Mais c'est vrai que le nom de Benjamin Griveaux, il est sur les lèvres de tous les militants qui étaient là, tous les soutiens de Cédric Villani. Quelques déçus du macronisme d'ailleurs, qui ont dit nous on a voté pour Emmanuel Macron en 2017 pour cette indépendance d'esprit, pour cette liberté, et ça Benjamin Griveaux ne l'incarne pas. Il y a un problème de sympathie peut-être, de proximité pour Benjamin Griveaux qui ne séduit pas ces militants-là, militants macronistes pourtant, qui pour ceux que j'ai rencontrés en tout cas avaient voté Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, mais qui ont décidé de soutenir Cédric Villani contre le candidat officiel.
Donc. Et un rappel avec vous et Simon, et on va se laisser. Hein, l'araignée est de retour sur le revers de la veste. Hein.
Oui, ce petit, cette broche caractéristique, effectivement, de Cédric Villani, qui est sa signature, bah, il l'arborait encore aujourd'hui, alors qu'il l'avait laissé un petit peu tomber ces dernières semaines.
Merci à vous, en tous les cas, Simon Le Baron, du service politique de France Info, en direct de la rue de la Gaîté à Paris, avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau, Audrey Goutard. Oui. C'est un simple épiphénomène parisien, au fond, qui ne concerne que la capitale, ou c'est un choc politique?
En tout cas, c'est en l'écoutant, on ne peut qu'avoir un choc, parce que finalement, je l'écoutais, alors certains parlent d'une fraîcheur, etc., mais il a tous les critères qu'affichait le candidat Macron pendant la campagne, tous les critères du candidat idéal. C'est un homme de la société civile, avec une fraîcheur, effectivement, qui est qualifié, puisque effectivement il a eu une vie avant exceptionnelle. Bref, il correspond pile poil à un candidat macroniste. Ah bah non, c'est pas lui le candidat. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas lui.
C'est pas lui, oui. Stéphane Vernet, il y a eu des mots, alors j'ai noté au hasard, hein, Paris, capitale de l'espoir, bon, remettre l'hôtel de ville au service de ses habitants. Il dit surtout, ceux qui décident ne seront pas des organisations, mais les citoyens, vous et moi. C'est un peu de la rhétorique en marche, ça.
Oui, alors effectivement, il aurait pu être un excellent candidat En Marche à cette élection, mais c'est pas lui qui a eu l'investiture. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Benjamin Griveaux lui a fait une campagne interne. Il s'est adressé aux cadres du parti, aux militants, etc. Il les a convaincus qu'il était le bon candidat. Et la Commission nationale d'investiture l'a choisi à l'unanimité. Pendant ce temps-là, Cédric Villani lui s'adressait aux Parisiens. Et le retour qu'il en a eu, en fait, lui fait croire à sa chance. C'est-à-dire que
lui
dans
fait
la rue,
croire, hein. Lui fait croire
simplement parce que rien n'est écrit en politique et une élection n'est jamais gagnée d'avance. Donc,
on l'a vu avec le candidat Macron.
Surtout quand on est surtout en France où finalement on aime bien dire aux gens qui sont en difficulté, qui peuvent pas être candidats, qui sont empêchés, on est avec vous, allez-y. Mais au moment de voter, il va se passer du temps et finalement peut-être
encore
que les gens qui vont dire allez-y seront pas ceux qui voteront pour lui à la fin. Donc c'est un petit peu compliqué.
Emmanuel Rivière, 33% pour En Marche aux européennes à Paris, loin devant tous les autres partis. Logiquement, c'est un boulevard, mathématiquement.
Il n'y a tellement rien à voir entre les européennes et les municipales. C'était le bon scrutin d'ailleurs pour Emmanuel Macron et les européennes. Le parfait premier scrutin dans le cycle. Parce que les municipales, c'est...
On peut pas dupliquer le résultat. Hein.
Non, on peut pas. Je pense qu'on va avoir pour la première fois peut-être des élections municipales vraiment municipales. Où en fait les étiquettes de partis, d'abord qu'on arborera très modérément.
Ça vaut
dans
pour
la
toutes les grandes villes de toutes les communes de France, vous dites ça?
Ouais, enfin, Paris sera forcément un peu à part parce qu'on braque les projecteurs à Paris. Villani, il fait ça à Orléans. Je grand respect pour Orléans, Poitiers, qui est chez moi. Il a pas la même aura. Donc là, il va y avoir une attention portée sur le Trublion qui va aller au-delà de ça.
Mais je vous dis, ce sera vraiment municipal.
Mais on va bien s'amuser le soir à compter qui a gagné quoi en termes de comptabilité par parti. Ce sera quasiment impossible parce que on va être dans tout à fait autre chose. Et ce sera probablement effectivement la première fois. On a l'habitude de dire qu'on élit avant tout des maires. Mais enfin, il y a 6 ans, il y a 150 mairies qui passent du PS à l'UMP. C'est bien parce qu'il y a des phénomènes politiques à échelle nationale. Je pense que ce sera vraiment pas le cas.
Sauf que Paris, c'est pas une élection normale entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont pas les Parisiens qui votent pour un candidat.
Un scrutin particulier.
Très particulier, donc effectivement tout est particulier.
20h40, on reste là-dessus. Hein, sur France Info, rappel de l'info, avec vous tout d'abord Jules de Kiss.
C'est un nouveau camouflet pour Boris Johnson. Son Parlement adopte en première lecture une loi qui lui impose de réclamer un nouveau report du Brexit à l'Union européenne. Cela va à l'inverse de son plan de départ, quitter l'UE quoi qu'il advienne le 31 octobre. Un deuxième vote crucial doit avoir lieu un peu plus tard dans la soirée, celui pour organiser ou pas de nouvelles élections législatives à la mi-octobre. Il faut une majorité des 2/3 pour cela et le Premier ministre ne devrait pas pouvoir l'obtenir. Nous entrons dans une nouvelle phase de la réforme des retraites, assure le Premier ministre. Édouard Philippe a pris la parole tout à l'heure après le Conseil des ministres. Il entend maintenant mettre les partenaires sociaux au cœur du jeu, des négociations. Il communiquera sur la méthode retenue pour ces discussions et le calendrier la semaine prochaine après une première rencontre avec les syndicats. Pour des impératifs de sérénité et d'impartialité, l'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso est dépaysée de Nantes à Rennes. Décision de la Cour de cassation, des policiers sont mis en cause dans cette affaire ouverte pour homicide involontaire. Steve est tombé dans la Loire après une opération de police controversée sur les bords du fleuve. C'était tard dans la nuit à Nantes lors de la fête de la musique en juin dernier. Le photographe allemand Peter Lindbergh est mort à 74 ans. Il est devenu célèbre avec ses clichés de mannequins et de stars en noir et blanc. Il s'est davantage engagé
à la fin de sa vie, photographiant notamment la militante écologiste Greta Thunberg ou la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Et puis première manche en cours à l'US Open de tennis entre Gaël Monfils et l'Italien Matteo Berrettini. Le Français vise une place en demi-finale à New York. Il mène 3-2 dans la première manche. C'est son adversaire qui est maintenant au service.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Cédric Villani, candidat à Paris. Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement National, qui était tout à l'heure l'invité du 18-50 France Info, interrogé sur la rentrée d'Emmanuel Macron, en est venu spontanément à parler de ce candidat.
J'ai de l'estime parce que c'est un garçon brillant et nous allons le combattre à Paris avec un autre candidat.
Vous le connaissez? Vous lui parlez?
Oui, bien sûr. C'est un garçon qui a un profil intéressant parce qu'il sort des sentiers battus et parce que je crois il a des convictions au corps. Mais en revanche, cette volonté de mainmise de l'appareil de La République En Marche sur Paris et sur la candidature nous montre que c'est pas très nouveau monde. C'est les ministres candidats. Et à ce vieux monde.
Alors, il faut rappeler que le RN, le Rassemblement National, fait figure de la figuration, on va le dire comme ça, à Paris. Mais tout de même, ce que dit Sébastien Chenu est intéressant. Après tout, on a la sensation que cette affaire, au fond, intéresse les uns et les autres parce qu'elle raconte autre chose de ce que vit aujourd'hui, ce que traverse La République En Marche.
Oui, c'est vrai. Alors déjà, on a une personnalité comme Cédric Villani, un peu ce côté un peu New Age. C'est vrai qu'il a sa conférence de presse était effectivement un peu surréaliste. Donc c'est un personnage aussi qui est disruptif. C'est un personnage qui franchit le Rubicon, comme l'a fait Emmanuel Macron. Et puis surtout, il dit voilà que cette désignation, elle était viciée depuis le début. Donc il y a un petit côté, on voit cet homme original se muer peut-être en homme politique avec une ambition. Peut-être un courage, celui de défier, ce qui n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron, mais ça met aussi la République En Marche dans une position de dilemme, c'est-à-dire, si on sanctionne, eh bien ça fait vieux, on apparaît comme un vieux parti, vieux monde. Si on ne sanctionne pas, ça ouvre à des dissidences
donc,
ailleurs.
Donc il ne sera pas sanctionné, puisqu'il
n'y a pas d'exclusion. Non, il ne sera pas sanctionné, je ne pense pas. Après, mais ils sont divisés là-dessus, La République En Marche. Et puis, ça peut être un recours au cas où Benjamin Griveaux explose aussi en vol.
Alors ça, c'est une longue histoire qui démarre. Emmanuel Rivière, dans le sondage que vous nous proposez ce soir concernant les préoccupations des Français, il y a l'environnement. On a entendu ce candidat, au fond, essayer de se positionner en candidat de l'écologie, l'environnement qui devient une préoccupation majeure des Français.
Oui, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vraiment, je pense, le fait que beaucoup d'enquêtes ont montré cette préoccupation qui a fini par imprégner les discours des uns et des autres. Mais effectivement, le sondage le montre de manière très claire. Il y a 18 mois, on avait 20 points de moins de citations sur l'environnement, qui arrive aujourd'hui en deuxième après le pouvoir d'achat, 38% de citations, premier rang chez les électeurs d'Emmanuel Macron. La moitié d'entre eux nous disent la priorité, c'est l'environnement. C'est pas que français d'ailleurs ce phénomène. On a la même hausse de la préoccupation à l'échelle européenne, en général d'ailleurs sur les pays occidentaux. Les Français d'ailleurs ont beaucoup intégré dans leur consommation, ça mes collègues qui mesurent les comportements de consommation le notent très bien. Et du coup, ils attendent une réponse politique. Ils n'ont pas envie d'être les seuls à faire l'effort. Et le risque, dans ce contexte-là, où tout le monde va se mettre à parler d'environnement, c'est que beaucoup d'électeurs se disent « Non, il faut qu'on fasse la différence entre les discours sincères et une forme de greenwashing appliquée à la politique. »
Oui, greenwashing politique, vous me l'avez enlevé de la bouche. Audrey Goutard, finalement, Cédric Villani marche sur les plates-bandes d'Anne Hidalgo et aussi de Cédric Belliard, son allié vert à Paris.
Et alors, en l'écoutant, j'ai trouvé que c'était la fragilité du discours de Cédric Villani, c'est-à-dire qu'il se targue d'apporter de l'écologie à Paris et d'être l'écologiste parisien. Néanmoins, lors de son passage au gouvernement, il ne s'est pas illustré non plus par un discours très punchy en matière d'écologie, d'environnement, de protection des espèces, de protection de la nature. Et allier science et écologie, puisque c'est son fer de lance, ça n'est pas encore très clair dans l'esprit, j'imagine, des Français, et on ne voit pas très clairement, concrètement, où il veut en venir.
Stéphane Vernet, sur ses positionnements municipaux, Anne Hidalgo, elle, va boucler, alors ce sont 1000 kilomètres de pistes cyclables à Paris, tous ces travaux seront achevés en fin d'année, elle va jaillir à vélo électrique dans la campagne en janvier prochain. Dans toutes les villes de France, on a la sensation que finalement le bien vivre, l'environnement, la pollution dans les villes, ça devient l'enjeu majeur.
Mais complètement. En fait, c'est une thématique qui est en train de qui prend une ampleur très forte. C'est ce qu'a montré le sondage. Mais en fait, depuis un an, c'est une thématique qui monte partout. Elle est servie aussi par l'actualité internationale. Elle est servie par la météo entre guillemets. Et il n'y a pas qu'en France que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Les écologistes, eux, sont persuadés qu'on est arrivé à un point de bascule qui s'est traduit par leurs bons résultats au niveau des européennes. Et ils se sentent portés. Alors dans le cas de Paris, vous avez une Anne Hidalgo qui dit depuis longtemps, qui a toujours dit que, en fait, depuis à Paris, pour elle, le point clé pour gagner une municipale à Paris depuis 2001, c'est la question de l'écologie. Vous avez les écolos qui disent oui, mais tout ce qu'elle a fait en matière d'écologie, c'est pas elle, c'est nous. Et vous avez Cédric Villani qui arrive en disant « Je serai le premier maire véritablement écologiste à Paris ». Donc on voit bien que c'est une des thématiques qui va être au cœur des municipales à Paris, chacun revendiquant la paternité de l'écologie. Le vrai écologiste, c'est moi. Mais on verra des choses similaires dans d'autres villes, d'autres grandes villes de France. C'est une espèce de thématique qui va revenir sans arrêt dans les scrutins.
Là où ça peut être assez cocasse à Paris, c'est que pour le coup, il y a un électorat, qui est l'électorat traditionnel de la droite à Paris, qui n'est pas vraiment là-dessus, qui même s'est plutôt opposé à Anne Hidalgo là-dessus. Et vu la subtilité du mode de scrutin que vous rappeliez, Audrey, tout à l'heure, ça fait un jeu très très compliqué à Paris, parce qu'il peut y avoir des arrondissements qui seraient conservés par les Républicains, d'autres qui seraient conquis par La République En Marche, et on ne sait pas si on va pas se répartir entre deux types de listes, puis ceux qui seront conservés par le Parti Socialiste. Rien, arithmétiquement, rien ne garantit une majorité dans le mode de scrutin qui est effectivement un mode de scrutin indirect au Conseil de Paris pour désigner un maire.
Audrey Goutard.
Aujourd'hui, il y a eu un sondage international sur les capitales les plus où il fait le plus bon vivre, et c'est Vienne qui est ressortie pratiquement en tête de liste. Vienne, une capitale qui effectivement a tout misé sur l'écologie, tout misé sur l'environnement, et aujourd'hui, ça lui permet effectivement d'irradier et d'exister internationalement. Donc c'est évident, même d'un point de vue purement économique, les candidats aux municipales auront tout intérêt à jouer sur la fibre écologique.
Mais c'est justement tout le problème aujourd'hui d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle a donné le sentiment de punir les automobilistes, les empêcher de prendre le volant. On a tous peut-être laissé notre voiture pour certains, pour prendre soit le vélo, soit le scooter, ça ne veut pas dire que ça pollue moins, mais enfin bon, on est moins embêté. Mais elle n'a pas trouvé, en réalité, de substitut à ça. Elle n'a pas développé... Elle développe les pistes cyclables, etc. Mais regardez, pour avoir une voiture électrique à Paris, vous la branchez où? Vous faites comment?
Vous êtes de France 24, vous observez, vous scrutez ce qui se passe sur la planète, les pistes cyclables se développent un petit peu partout dans le monde.
Bien sûr, oui, mais tout le monde ne va pas faire du vélo. Vous ne pouvez pas demander à une dame de 70 ans ou quelqu'un
Emmanuel
qui...
Rivière.
Voilà. Il reste les transports en commun.
Cherché non plus à développer d'autres moyens de transport électrique.
20h50 sur France Info. Rappel de l'info tout d'abord avec vous, Jules De Kiss.
Cédric Villani annonce donc officiellement sa candidature à la mairie de Paris. Le mathématicien, député de l'Essonne, dit vouloir mener une politique de bienveillance et de liberté. Pour sa campagne, il veut rassembler et ne jamais être dans l'attaque. Il va pourtant devoir faire face à Benjamin Griveaux, désigné candidat par La République En Marche. Malgré sa candidature dissidente, le parti présidentiel décide ce soir de ne pas exclure Cédric Villani. La famille attend des explications après la mort d'un patient dans l'hôpital de la Conception à Marseille. L'homme de 73 ans atteint d'Alzheimer et d'un cancer était porté disparu depuis plus de 2 semaines. Son corps a été retrouvé hier dans une aile désaffectée de l'établissement. Il aurait échappé à la vigilance du personnel alors qu'il avait rendez-vous pour une séance de chimiothérapie. L'Italie a un nouveau gouvernement ce soir. Il vient d'être investi, il prêtera serment demain. C'est une coalition entre le mouvement 5 étoiles, la formation populiste d'extrême gauche et les sociaux-démocrates. C'est donc la fin d'un mois d'incertitude après l'éclatement de la précédente équipe gouvernementale sous l'impulsion de Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur d'extrême droite qui en est finalement le grand perdant. Lui et son parti ne sont plus au pouvoir.
Après avoir semé le chaos aux Bahamas, l'ouragan Dorian s'approche de la Floride. Il est maintenant de catégorie 2 sur 5, bien moins puissant que dans l'archipel où il a fait au moins 7 morts. Il reste cependant potentiellement dangereux avec des vents qui avoisinent les 170 km/h. Et puis Gaël Monfils prend le service de son adversaire dans la première manche de son quart de finale de l'US Open de tennis. Il mène 5 jeux à 2 contre l'Italien Matteo Berrettini, l'Italien qui est au service. En demi, le vainqueur de ce match affrontera soit Rafael Nadal, soit Diego Schwartzmann qui joue un peu plus tard ce soir.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Oui, je rappelle quand même au passage que Audrey Goutard est venue à bicyclette électrique à cette émission ce soir.
Depuis 3 ans, j'ai abandonné ma voiture.
Encore un mot sur ces municipales qui sont un enjeu majeur évidemment pour le président de la République, La République En Marche. Le Premier ministre au sortir de ce séminaire a été questionné sur les municipales et a fait cette mise au point.
À partir de janvier 2020, chaque ministre pourra bien entendu être candidat en figurant sur une liste ou en étant même tête de liste. Je précise immédiatement que la règle selon laquelle, lorsque l'on est ministre, on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local restera valable, ce qui veut dire qu'il appartiendra à ceux qui sont candidats, le moment venu, et s'ils sont élus, de déterminer si, oui ou non, ils veulent rester membres du gouvernement ou si, oui ou non, ils choisissent d'exercer des fonctions à la tête de l'exécutif auquel ils auraient été élus.
Allez, un mot rapide là-dessus parce que je voudrais que nous commentions ce qui se produit en ce moment même à Londres. Rapidement sur cette question des municipales, Emmanuel Rivière, ça concerne 3 ministres hein, au bout du bout. Mais au fond, on sent qu'il y a une forme de préoccupation du gouvernement à l'endroit des municipales. C'est un enjeu.
Oui, c'est un enjeu. Et puis là, symboliquement, c'est quelque chose qui est important pour les Français, le non-cumul. Après, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce qu'on perd à ne pas garder un ancrage territorial. Mais on n'a pas besoin de diriger un exécutif pour le conserver. Mais ce gouvernement qui, par ailleurs, a dit qu'il allait aussi réformer la politique. Il veut maintenir sa réforme qui permettra de réduire le nombre de parlementaires. Il ne peut pas facilement lâcher sur quelque chose aussi symbolique que le cumul des mandats.
Allez, ça se passe en ce moment même à Londres. Vous le savez, c'est la suite de ce feuilleton à rebondissement du Brexit et ce camouflet ce soir pour Boris Johnson, puisque la Chambre des communes approuve la loi repoussant la date du Brexit au débotté, Roselyne Fèvre. Finalement, Boris Johnson n'arrive pas à se sortir de ce piège.
De ce piège que lui-même s'est créé d'ailleurs. Et on pourrait comparer avec ce qui se passe aussi en Italie où Salvini a joué et il l'a perdu en voulant défier la représentation nationale. Donc c'est vrai que Boris Johnson, on se demande si c'est un benêt ou un génie. Parce que s'il y a des élections anticipées et que dans ce cas, eh bien il fasse un gouvernement un parlement à sa main, un gouvernement à sa main. Bon, en tout cas... Il a une politique comme sa coiffure assez désordonnée. Ah. Il n'a pas compris deux choses. La première, c'est que la Grande-Bretagne serait mieux hors de l'Europe. C'est contraire à la réalité. Deux, il n'a pas compris. Il a une méconnaissance des mécanismes européens et il n'avait pas vu qu'il fallait payer 34 milliards d'euros pour sortir de l'Union européenne, parce que les 34 milliards, ils correspondent à quoi ? À Bruxelles, oui. aux parlementaires, oui. Il faudra payer leurs retraites. Et c'est Bruxelles qui va les payer et il faudra les rembourser.
Stéphane Dernay, le Premier ministre britannique, semble-t-il, perd la manche ce soir. Est-ce que ce Brexit peut être repoussé au-delà de cette date fatidique ?
Bah, ça commence à devenir un vrai problème, ça de report en report. Vous avez quand même Emmanuel Macron et puis l'exécutif, enfin la commission qui est l'Union qui dit bah ça suffit là, on a déjà reporté à plusieurs reprises, on va pas continuer à reporter indéfiniment le Brexit. La vraie question c'est dans quelles conditions est-ce que on va se séparer ? Le spectre du no deal. Ce serait dramatique et pour les Anglais et pour nous, c'est ça la vérité. Ce qu'ont bien compris les parlementaires britanniques et ce qu'ils viennent de refuser, c'est une sortie sous forme de no deal. Le problème, c'est combien de temps on va encore négocier. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et puis, ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est que vous avez aujourd'hui, en gros, vous avez 30% de Britanniques qui sont des Brexiteurs, qui veulent sortir. Vous en avez 30% qui sont des Remainers, des gens qui veulent rester. Et puis, vous avez 40% qui forment une majorité, qui veulent que ça s'arrête.
ça n'a que trop duré. Et le tout, c'est de trouver enfin une porte de sortie, un compromis honorable pour tout le monde, qui permette de passer à autre chose.
Emmanuel Rivière, nous jouons les prolongations en Grande-Bretagne.
Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas plus de majorité pour approuver un Brexit sans accord qu'il n'y en avait pour approuver l'accord de Theresa May. À Westminster, et je rejoins complètement ce que vient de dire Stéphane, il y a un fait légal qui est que la majorité des Britanniques, 51,5%, a voté pour le Brexit. Mais il faut rappeler qu'ils ont voté sans texte. Or, effectivement, il y a, alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, pas tout à fait les mêmes sondages, mais il y a effectivement, on va dire 30% de Brexiteurs parmi les Britanniques, mais ils se divisent entre les hard Brexiteurs, à peu près 20%, et ceux qui voudraient sortir en restant dans le marché commun. Et donc, il n'y a pas de pays derrière. Et donc, la tentative que certainement fera Boris Johnson de jouer un peu le peuple contre les élites risque de se heurter à cette réalité.
Il ne propose rien derrière, c'est ça le problème.
Audrey Guttard, un dernier commentaire sur ce qui se produit à Londres ce soir.
Oui, il a essayé de passer en force, c'est raté. Et ce qui était intéressant à regarder, c'était son visage qui se décomposait aujourd'hui à l'Assemblée, parce qu'il a vu qu'il était lâché même par ses plus proches, ceux qui l'avaient soutenu au départ. Et c'est une énorme claque. Et ça se sentait, il s'affaissait sur son siège. Ça se sentait physiquement et qu'effectivement, comment se relever ensuite après une claque pareille.
Allez, avec vous, Audrey, on rappelle votre nouveau rendez-vous.
Mais oui.
Sur France Info, la chaîne 27.
Exactement, exactement. Et de vendredi, donc, je reçois Sébastien Arsac. Alors là, c'est une association de choc. C'est le président d'une association de choc de défense pour la cause animale.
Ligne directe.
Ligne directe.
19h30, tous les vendredis. Stéphane Vernet, la une de West France demain.
Boris et Brexit.
Ben voilà, ça tombe bien. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Audrey Guttard, Roselyne Fèvre, Stéphane Vernet et Emmanuel Rivière. Je rappelle le sondage à lire sur nos sites respectifs.
Kantar,
One Point pour France Info. À demain pour ma part. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info.